Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanettetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettetrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour.
Bonsoir Léa, bonsoir Pascal de chez Happy Run. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un très très grand plaisir de vous recevoir parce que j'ai énormément de questions sur l'activité autour du miel. Mais d'abord, on va commencer à s'intéresser à vous. Comment est-ce que vous allez, Léa et Pascal ?
Bonjour, merci de nous recevoir, on est ravis.
Bonjour, on va plutôt bien.
Ouais, plutôt, ouais, ça va.
Oui, ça va.
Ça va bien, ouais. Bon, impeccable. Alors, il y a une tradition sur l'émission qui se déroule chaque mercredi soir, c'est de que vous nous racontiez votre premier trail.
Oupe là !
Ça remonte ?
Oupe là !
Alors, je vais commencer, comme ça tu vas avoir le temps de réfléchir. Le premier trail, moi je l'ai fait en duo avec, Pascal courait avec moi, et je crois que ça devait être un trail qui faisait 20 bornes, dans la Manche, du côté de Coutances. Et pendant toute la course, il m'a dit « Vas-y, accélère, la première féminine est devant, tu vas la voir !» Alors effectivement, je l'ai eu, mais à la fin... j'en voulais beaucoup.
Ok, ça marche. Et toi, Pascal ?
C'est bien parce que ça m'a permis de réfléchir et de me replonger dans l'ancien temps. C'était un trail dans la neige, 41 km à la gueule. J'en ai même perdu le nom. C'était à l'époque du début des Templiers. Et c'était le trail de l'Aubrac. Voilà.
Ok.
Dans les années 91.
Ça s'appelait pas trail à cette époque-là ?
À l'époque, si c'était déjà le trail de l'Aubrac. En général, c'était l'hiver et c'était dans la neige. Et c'était mon premier trail pour un 42 km.
D'accord, ok, ça marche. 42 km, premier trail. Parce que ouais. Quand on va voir votre site, donc happyrun.fr, on voit quand même dans la page à propos que vous avez... Alors, je lis, hein. J'ai pas retenu tout. 60 marathons, 40 ultra trail avec des 24 heures UTMB, diagonale, marathon des sables, raid du golf. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces ultra trail et ces très très longues distances ?
Alors moi, je vais juste apporter une petite précision. Moi, mes distances, c'est jusqu'à 70 km. Donc tous les ultras, les grands, c'est là.
C'est Pascal.
Donc je lui laisse la parole.
Ok.
Ah, ce qui m'a donné envie, en fait, j'ai eu la chance d'être sponsorisé à un moment donné et de faire partie d'une équipe qui s'appelait l'équipe Legendre. Et du coup, on était toute une bande, une équipe, et on partait aux quatre coins du monde faire des trails, la diagonale, etc., entre autres. Le marathon des sables avec l'équipe Legendre, entre autres. Donc, ce n'est pas une décision personnelle du départ, puis ça s'est fait au fur et à mesure, comme ça.
Ok. Donc, tu as quand même été mordu par la discipline pendant un temps pour en enchaîner quand même tout ce nombre, 40 ultra-trail. C'est quand même un chiffre qui est énorme.
Oui, toujours. Mais avant, j'avais fait beaucoup de routes. Hein. Avant, j'avais fait des 100 km, des 24 heures, etc.
Et ouais. T'es monté progressivement comme ça dans la distance
Oui, ce qui m'a beaucoup rassuré pour monter dans l'ultra-distance, c'était de faire des 24 heures.
Ok. Hein,
de faire des 24 heures, ça rassure énormément psychologiquement. Et en fait, après, une fois qu'on a fait 24 heures de course, on se dit finalement, d'aller faire un trail qui fait 150 km, c'est pas un problème quand j'en ai fait 200 en 24 heures, quoi.
Voilà, vu comme ça, tout va bien.
et alors, ce qu'on néglige, c'est le dénivelé dans ce cas-là.
Voilà. Ok.
Qui vient s'ajouter.
Ça marche. Bon, alors, juste pour vous présenter un petit peu Leïla et Pascal, ils tiennent la société Happy Run, donc qui produit des produits pour, à base de miel pour les coureurs et pour booster nos performances. Et donc, vous allez pouvoir poser, c'est le principe de l'émission, vous allez pouvoir poser toutes vos questions et je les afficherai à l'écran, là, comme ça, tout le monde qui dit bonjour. Et vous allez pouvoir poser vos questions à Leïla et Pascal concernant le miel ou si vous avez d'autres questions qui concernent leur façon de vivre le trail. On va avoir une heure pour débattre de ce sujet-là, de discuter de ce sujet-là et ça va être vraiment passionnant parce que moi, j'ai plein de questions à vous poser concernant le miel. Alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers cette pratique de la culture du miel et des abeilles ?
Alors, ce qu'on peut peut-être commencer par dire, c'est qu'on ne s'est jamais dit en se penchant autour d'un bureau, ouais, on va faire un business plan, on va lancer une société, l'apiculture, on va le mettre à la disposition des sportifs. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est plutôt passé pendant un entraînement marathon, une de ces sorties qui font, je ne sais plus exactement, mais 3h, 3h30 où on fait 8 à 10 km d'allure, où on a un petit peu de temps pour discuter. Et j'avais dans ma poche, comme tout un chacun, un gel, en me disant, bah, si j'ai un petit coup de mou, je vais prendre un gel d'une marque lambda. Et je dis à Pascal, mais je vais encore avoir mal au ventre. Et là, en fait, on avait déjà des ruches, et on a commencé à discuter en disant, ouais, mais le miel, c'est vachement bien, c'est vachement sain, c'est très bon. Et en fait, de fil en aiguille, Happy Run est venu très vite, le nom Happy Run. Hein, et assez rapidement, en fait, on a augmenté le nombre de ruches et donc la production de miel hein, avec cette idée de faire des doses de miel. Je te laisse compléter.
Oui, c'était surtout ça l'idée. C'était comment transporter le miel qu'on a en bocal pour qu'il soit accessible dans un effort sportif. Et ça... On s'est dit, il existe des berlingots, des gels énergétiques, chimiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire la même chose? Donc, on s'est un peu creusé la tête pour voir comment on pouvait mettre notre miel en petite dose pour pouvoir l'emmener. Et puis, on a testé, on a trouvé que c'était plutôt bien. Bon, on en connaissait déjà toutes les vertus du miel, mais bon, c'est vraiment là qu'on a vu que dans l'effort, c'était particulièrement efficace et redoutable dans sa digestion.
Ok. Alors avant qu'on parle des propriétés spécifiques du miel concernant les sportifs, j'aimerais qu'on vienne à la base de la base. Comment on fait du miel?
Allez, vas-y, je te laisse.
Alors, moi je dis souvent nous on fait rien. On prend ce que nos abeilles nous donnent hein, et ce sont les abeilles, c'est les vieilles abeilles hein, qui sont suffisamment aguerries pour aller butiner et sortent de la ruche, récoltent le nectar hein, des fleurs, le travaillent dans leur jabot et le réinjectent dans les petites cellules de cire dans les alvéoles de la ruche.
D'accord. Et donc, une fois que les abeilles sont parties chercher donc le nectar sur les fleurs, mm-hmm. elles arrivent dans la ruche, elles le déposent, et puis après, c'est là que le travail se fait?
Alors, en fait, c'est plus complexe que ça, puisque déjà, entre le moment où elles sont dans la fleur et le moment où elles arrivent dans la ruche, elles ont déjà travaillé le nectar pour lui apporter des amylases. Elles ont fait une espèce de prédigestion du miel. Et ce n'est pas la butineuse qui va remplir les alvéoles de miel. C'est en fait la butineuse, elle donne ce miel-là à une autre abeille qui, elle, va la retransformer et va la remettre dans les alvéoles. Et après, effectivement, quand les alvéoles sont pleines de miel, que tout est bien plein, pour les conserver, les abeilles, alors ça s'appelle des cirières, il y a des cirières qui bouchent les alvéoles de façon à ce que le miel se conserve sans être oxydé, sans être à la lumière de rien du tout.
En fait,
ça garde le taux d'humidité, ça garde toutes ses propriétés. Et le miel stocké comme ça peut être gardé indéfiniment.
Ok.
Ce qui se passe, c'est que comme nous, eh bien, on essaye de récolter ce miel. Alors, c'est voilà, il y a du miel dans la ruche et après, on va le récolter.
D'accord. Et donc, une fois que ce miel est récolté, vous, votre travail, c'est juste entre guillemets de sortir les, parce que moi je vois souvent sortir des espèces de racks là et puis on fait couler le miel et là c'est fini, il n'y a plus rien à faire ou il y a encore un traitement après derrière à faire.
Moi j'ai envie de dire que ça c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est effectivement la représentation qu'on a de la fabrication du miel parce que c'est ce qu'il y a de plus concret et c'est l'étape de on enlève cette petite et fine couche de cire sur ce qu'on appelle les cadres de hausse de la ruche. On enlève les opercules et là, le miel coule et on récolte. Sauf qu'en fait, le travail, il est vraiment en amont pour nous, les apiculteurs. C'est, en fait, moi, j'aime bien le terme de berger des abeilles. Les abeilles, elles savent ce qu'elles ont à faire. Pour autant, c'est à nous de bien travailler pour implanter le rucher au bon endroit pour s'assurer que l'ensoleillement est bon, que l'orientation est bonne, qu'il n'y a pas trop d'humidité, que s'il y a des attaques de frelons, eh ben, on les en protège par exemple, qu'on s'assure que la reine fait bien son job, qu'elle n'est pas trop vieille, de la remplacer si c'est le cas, de leur mettre de la cire propre et neuve. On est là pour les aider en fait. Et la récolte du miel, c'est la récompense, c'est l'aboutissement de tout ce travail qu'on voit beaucoup moins, voilà.
Bien sûr, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est justement que vous nous expliquez tout ce qui se voit pas. Et comment vous faites pour savoir qui est la reine? Je vous avais dit que j'ai des questions qui sont un peu...
Alors, la reine est plus grosse que les autres abeilles. Okay. Mais dans une ruche, il y a trois catégories d'abeilles. Il y a la reine, qui est unique. Il y a les ouvrières, enfin, d'une manière générale, et il y a aussi des mâles. Et les mâles, eux, ont une fonction uniquement pour aller féconder les reines dans la nature.
Okay.
Quand ils sont dans une ruche, ils ne peuvent pas manger tout seuls, c'est les ouvrières qui leur donnent à manger au bourdon, on appelle ça des faux bourdons. Ils servent à l'intérieur d'une ruche que pour ventiler et chauffer la ruche, d'ailleurs. Parce qu'une ruche, à l'intérieur, ça fait 37 degrés.
D'accord.
En moyenne, c'est 37 degrés. Donc, il faut chauffer. Parce que le couvain ne se développe qu'à cette température-là. Alors, okay. Un truc intéressant à savoir dans le monde des abeilles, c'est qu'au départ, notamment pour la récolte, les abeilles, elles ont une maison. Comme si c'était une maison où il n'y avait pas d'étage, c'est de plein pied, et elles habitent au premier étage. Et à l'intérieur de ça, la colonie va vivre. Il y a des rayons de miel, enfin des rayons des cadres de cire qui sont verticaux, et la colonie, elle va vivre dans tout ça. Et quand on veut récolter du miel, en fait, on ajoute un étage à cette maison, qui sont des petits rayons de cire, les uns à côté des autres, pareil. Et quand on va être en pleine saison de ce qu'on appelle de mielée, là où il y a un nectar à profusion dans la nature, en fait, les abeilles vont remplir cet étage très rapidement. Hein, ça peut aller très vite. En 15 jours, elles vont faire 20 kg de miel dans l'étage. Et si ça continue, et ben on rajoute un deuxième étage et elles vont continuer de remplir les étages de miel. Et okay. Nous, on ne récoltera que les étages. Le miel qu'il y a dans le corps, ce qu'on appelle le corps de ruche, le miel qu'il y a à l'intérieur, on le laisse automatiquement, on le récolte pas, parce qu'il leur servira pour passer l'hiver.
Ok, c'est leur nourriture en fait.
Ce sera leur nourriture d'hiver, d'ailleurs qu'il faut énormément pour nous surveiller, parce que si elles en manquent, je dirais c'est un petit peu comme des vaches, hein, on les met à l'étable, elles ne sortent pas au pré, mais il va falloir surveiller qu'elles aient à manger tout le temps. Donc elles vont consommer ce qu'elles auront dans le corps de la ruche, mais à un moment donné, s'il y a trop de froid, trop de... Enfin bon, voilà, ça dépend. Il y a des colonies qui vont manger plus les unes que les autres. En fait, il va falloir qu'on surveille de façon à ce qu'elles ne meurent pas de faim pendant l'hiver non plus.
Ok, et là, ça marche.
Et là, on va garder un peu de miel pour leur en redonner l'hiver au cas où.
Ok, super, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on entend qu'il y a des fois du miel qui va être bio et qu'il y a certains miels qui vont être bons et d'autres qui ne vont pas être bons. Qu'est-ce qui fait qu'un miel est bon ou pas? Et parce que, pour la petite histoire, quand j'étais pompier de Paris, il y avait un des pompiers qui avait des ruches sur les toits de Paris. Il avait négocié comme ça, il avait réussi à avoir des petites ruches sur les toits de Paris. Et puis moi, je me disais, mais la pollution qu'il y a à Paris, ton miel, il doit être infect. Et alors qu'au contraire, apparemment, il était très très bon, juste parce qu'il y avait justement une diversité de fleurs. Sur la ville de Paris, et du coup ça en faisait un miel qui était très bon, et du coup j'ai jamais réussi vraiment à comprendre qu'est-ce qui en faisait un miel qui était bon ou pas.
Alors peut-être pour revenir au tout début, je vais apporter un début de réponse. Qu'est-ce qui fait qu'un miel qui est bon ou pas? Ben, les gens mettent la cuillère dans la bouche, c'est bon ou c'est pas bon. C'est un peu comme le vin, c'est-à-dire que moi j'y connais rien au vin, mais je sais dire j'aime ou j'aime pas. Voilà. Oui. Ensuite, sur l'aspect authenticité, c'est autre chose. Et sur l'aspect bio ou pas bio, j'avais cette conversation-là aujourd'hui au téléphone avec... de sportifs de très haut niveau qui me disaient « mais nous, on n'achète que du miel bio ». Je dis « très bien ». Le premier gage de qualité pour un miel, c'est d'être extrait à froid et auprès d'un apiculteur récoltant. C'est un gage de « il n'y a pas d'intermédiaire » et de « il n'y a pas pu y avoir de transformation cachée ». Le miel est malheureusement dans la grande distribution, l'un des produits les plus frelatés, peut-être parce que la réglementation n'est pas assez stricte. Je vais prendre un exemple. Quand le miel est pur, quand il n'est pas mélangé à quelque chose, on doit en préciser la provenance. Voilà, c'est notre cas, on explique que ces produits récoltés en Bretagne. Il y a des plaques tournantes avec le miel qui sont assez... incroyable, inimaginable. On peut croire acheter du miel d'Europe, d'Espagne, pour ne pas la citer, qui en réalité provient de Chine. C'est-à-dire que les conteneurs arrivent de Chine, ils sont reconditionnés en Espagne et revendus comme du miel européen.
Voilà. Okay.
Donc, ça c'est un aspect, et peut-être sur l'aspect, bio, le label bio, c'est quelque chose qui fait beaucoup discuter dans le monde de l'apiculture. Il n'est pas du tout controversé pour tout ce qui est fruits, légumes, maraîchage. C'est quelque chose, je dirais, d'établi et c'est très très clair. Pour ce qui est du miel, on a eu aussi ces échanges-là avec des vétérinaires apicoles. C'est plus compliqué, je m'explique. Quand on implante nos ruchers, eh ben, on est très précautionneux, on en parlait tout à l'heure, sur l'environnement, les arbres, la flore, sur les cultures, si c'est de la culture conventionnelle, raisonnée, bio. Dans notre cas, on s'implante à côté de cultures bio. Donc voilà, ça c'est un critère. L'autre, c'est la qualité fabriquer de la cire que l'on met dans les ruches. Donc il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de paraffine dans la cire que l'on met dans nos ruches, elle est labellisée, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a des pratiques de nourrissement, on parlait du nourrissement en hiver qui sont très réglementées, de notre côté on les respecte, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, moi je ne veux jamais avoir le label bio. Parce que il y a certains traitements qui sont refusés par le label bio contre un parasite, alors ça va devenir très technique, je suis désolée, mais qui s'appelle le varroa et qui décime les ruches et qui est très contagieux. C'est-à-dire qu'une abeille qui va butiner et qui va sur une fleur et l'abeille du rucher d'à côté vient, hop, elle lui file son parasite. Okay. Et ça, ça fait partie des facteurs qui déciment les ruchers et qui vraiment abîment les abeilles. Elles naissent avec des malformations, des moitiés d'ailes, elles tremblent. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très ennuyeux, le varroa, pour les abeilles. Donc, il faut les soigner, il faut les traiter. Moi, quand j'ai une pneumonie, je prends des antibiotiques. Et donc, ce varroa, il se traite avec un médicament qui s'achète en pharmacie, avec une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché tout à fait officielle, et qui doit être faite. Aujourd'hui, moi, ce que me dit le vétérinaire apicole, c'est que les traitements bio ne sont pas efficaces. Et moi, j'ai envie de protéger mes abeilles.
Et en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on est dans le bio pur, on laisse mourir les colonies par leur maladie.
D'accord.
Donc, la colonie, en fait, elle va être en bonne santé une année, moins bonne la deuxième année, la troisième, elle va mourir. Et donc, l'agriculteur bio a énormément de mal à entretenir des colonies qui ne soient pas malades du varroa. Donc, c'est un véritable problème. Et j'irai plus loin en disant, les abeilles, on ne surveille pas où elles vont butiner. Et on peut être dans n'importe quel endroit de France avant... de dire qu'il y a une abeille qui va sur la petite fleur de la grand-mère qui a mis du désherbant ou de l'engrais sur ses plantes, on ne peut pas le savoir.
Non.
Et alors, ce qui est terrible, c'est que les critères du bio français sont très sélectifs, mais les critères du bio des bio étrangers ne le sont pas.
Concernant le miel.
Concernant le miel, j'entends. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a du miel bio qui vient de Tchécoslovaquie, qui vient de Hongrie, qui vient des pays de l'Est, qu'on ne s'autorise pas en France. Par contre, c'est du bio, mais du bio de là-bas. Il y a même en Chine, ils sortent maintenant des miels bio de Chine, qui utilisent nos moyens, je dirais, quand on parlait du traitement du varroa avec des AMM. Nous on les utilise parce qu'on n'est pas bio. En Chine, ils vont les utiliser les mêmes traitements que nous, par contre eux ils sortiront bio.
D'accord. Donc c'est des différences de réglementation qui font que s'aligner, ça devient très compliqué. Ouais,
pour revenir aux sportifs, peut-être aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on les perde, nos coureurs.
Ils sont là, ils sont bien présents.
Ouais, ils sont là, ok. Simplement, pourquoi c'est important d'acheter en direct chez votre apiculteur du coin? C'est parce que vous pouvez être sûr qu'il a extrait son miel à froid, et qu'il n'a pas été chauffé et que les qualités du miel ne sont pas détériorées. Et c'est ça le truc vraiment le plus important, je pense. C'est un peu comme le vin, en fait, aussi. C'est-à-dire que le miel, c'est le goût du terroir local. Hein. Moi, ce que j'adore faire quand je vais dans le Massif central, en Corse, n'importe où, c'est acheter le miel du coin parce que ça a la saveur locale. Hein. Et c'est comme le vin, en fait. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage de ne manger que du miel d'acacia qui n'existe quasiment pas en France.
Un miel chauffé à plus de 40 degrés pour son extraction a l'avantage de fluidifier le miel. C'est-à-dire que quand on a 10 tonnes de miel à extraire, plus il sera liquide, plus ça va se faire vite et mieux ça sera. Il se passe aujourd'hui qu'il y a des industriels du miel, hein, quand il y a des apiculteurs qui ont 1000 ruches, 2000 ruches. Donc, ils ont 20 tonnes, 30 tonnes de miel à extraire. Donc, ils sont obligés de le chauffer. Ils le chauffent à plus de 40 degrés. Et en fait, quand on chauffe un miel à plus de 40 degrés, on en perd toutes ses propriétés. On ne garde que le sucre et le goût. Mais tout ce qui est amylase, tout ce qui sont les produits qui ont été ajoutés par l'abeille, en fait, ont disparu.
Okay. Ce qui est un peu
dommage.
Il y a
des enzymes il y a des enzymes de prédigestion pour l'homme qui sont dans le miel. C'est-à-dire que les abeilles ont digéré déjà ce miel pour nous. Et en fait, si on ne l'a pas chauffé, ce qui est notre cas, on en a tous les bienfaits. Donc, on va plus dire un miel est bon ou un miel est moins bon, par exemple, par rapport à cet aspect chauffe.
Ok. Donc ça, déjà, c'est un critère. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir, par exemple, sur une étiquette ou...
Non. On le saura...
En discutant
ouais. avec l'apiculteur, tout à fait.
Mais il faut savoir poser les bonnes questions et c'est tout l'intérêt de vous avoir...
Alors, un miel qui cristallise, hein, c'est un miel qui n'a pas été trop chauffé en général. Donc déjà, ça,
donc le miel qui reste liquide tout le temps,
il a été chauffé.
Facile à étaler, ça, c'est un miel qui a été chauffé...
Sauf le miel d'acacia, voilà.
D'accord. Ok, non, c'est intéressant d'avoir des critères comme ça de sélection.
Le miel d'acacia est très rare en France, hein,
c'est 7%
de la production française, et pourtant c'est ce qui est le consommé le plus, donc il y en a énormément, c'est de l'importation. Donc il y a le miel d'acacia qui reste relativement liquide, et les miels des tropiques. Mais les miels des tropiques, le miel de Cuba par ici, c'est relativement rare, et le miel d'Afrique centrale, c'est rare, on n'en trouve pas. Mais okay. Ce sont des miels qui restent liquides.
D'accord.
Et un miel qui est cristallisé, un miel qui est dur, les gens auront tendance à penser qu'il est plus bon, alors que pas du tout, pas du tout. À la limite, si on a un pot de miel qu'on n'arrive même pas à prendre à la cuillère tellement il est dur, on peut le tiédir entre 30 et 35 degrés, on en gardera toutes ses qualités et il va se ramollir au point, pas devenir liquide, mais devenir pâteux semi-liquide, on va dire. Et il sera très bon.
Super. Alors, vous en avez un petit peu parlé, mais il y a Grégory qui a aussi une question qui est très intéressante, je trouve, parce que ça a été très d'actualité. J'ai l'impression qu'on en parle peut-être un petit peu moins en ce moment, mais en même temps, l'actualité est aussi un petit peu portée sur d'autres choses. Avez-vous été impacté de la perte importante de votre cheptel ces dernières années à cause de la pollution ou du frelon asiatique?
Alors...
Bonjour
Grégory, merci pour ta question. Grégory, je ne sais pas si tu as déjà été visiter un rucher. Les abeilles, c'est des petits insectes vraiment formidables, mais tellement petits qu'il est parfois difficile d'imputer, de faire une analyse post-mortem. Ça, c'est une des difficultés qu'on a, nous, en tant qu'apiculteurs, d'imputer le déclin d'une colonie à quelque chose de manière très certaine, sauf avoir une colonie décimée en une nuit avec un tapis d'abeilles devant la ruche parce qu'il y a eu, je ne sais pas quoi, des pesticides qui ont été en épandage dans un champ à côté. Est-ce qu'on a été impacté, nous?
Oui, on l'est.
Oui, forcément.
On l'est forcément. Globalement, les apiculteurs d'une moyenne générale perdent 10% de leur rucher pendant l'hiver. Mais ce n'est pas forcément dû aux abeilles, hein. c'est aussi dû à l'apiculteur lui-même. Hein. Il a hiverné ses ruches sans faire attention, il n'y avait peut-être pas assez de réserves à l'intérieur, ou la colonie était trop petite par rapport à la maison. Je disais tout à l'heure, elle habite une maison. Les maisons, c'est un peu des maisons standardisées, mais si c'est une famille, je vais dire n'importe quoi pour ramener ça à l'histoire de la maison, si on est une famille de 2 personnes ou une famille de 12 personnes, une petite colonie, on va la resserrer, on va diminuer les mètres carrés pour pas qu'elle ait à chauffer un gros volume.
D'accord.
Donc si on laisse une petite colonie dans un gros volume, elles vont s'épuiser à vouloir chauffer à 37 degrés alors qu'il fait moins de dehors. Et à partir de là, elles vont beaucoup se nourrir, elles vont avoir besoin d'un apport de miel énorme, et puis les réserves vont décroître. Et en une semaine, on va retrouver toutes les abeilles qui seront dans le fond des alvéoles, j'allais dire le cul à l'extérieur, parce qu'elles vont essayer de gratter le moindre truc dans le fond des alvéoles pour pouvoir continuer de manger. Donc ça, ça fait partie des pertes. Mais la question de sous-jacente, c'était de dire... est-ce que les pesticides déciment les colonies d'abeilles? Oui, forcément. Forcément, on peut, de toute évidence, on peut dire que s'il n'y avait pas de pesticides et que s'il n'y avait rien, elles seraient en bonne santé. Et dès qu'on leur met quelque chose dans les alentours, forcément que ça va les perturber. Donc, sachant que, bon, on essaye de travailler avec les agriculteurs qui sont dans le coin des ruchers en bonne intelligence, c'est-à-dire que si on sait qu'ils vont mettre un apport de quelque chose sur leur champ, pesticides ou pas, hein, d'ailleurs.
C'est pas des pesticides, mais ils viennent apporter voilà, un arrosage,
des fois, suppléments. Eh ben, il va nous le dire et on va enfermer les abeilles dans leur ruche. On y va la nuit. On va dire que quand le soleil, on fait des expéditions la nuit entre 10h et 1h du matin et on ferme toutes les entrées des ruches pour que le lendemain matin, elles ne puissent pas sortir de la ruche. Et là, l'agriculteur, il va arroser son champ qui est à 500 mètres. Il va l'arroser, on va laisser la journée et on les réouvrira pour le surlendemain ou 48 heures après.
D'accord.
Alors, tout le monde ne le fait pas, ce genre de truc. Donc, effectivement, il y en a qui choisissent des endroits où ils vont avoir des ruchers. Quand on installe un rucher, je dis souvent, c'est un petit peu comme quand on fait construire sa maison. Si je choisis de faire construire ma maison entre l'autoroute et la voie ferrée, il ne faut pas que je m'étonne d'être embêté par le bruit et d'avoir des nuisances. Mmh. Et ben, quand on installe un rucher, c'est des précautions qu'il faut qu'on prenne. C'est de dire... l'agriculteur qui est là depuis 25 ou 30 ans, qui a l'habitude de faire comme ça et qui fait comme ça, si je vais lui mettre un rucher sous son nez, est-ce que je suis au bon endroit ?
Donc, ouais, bien sûr. Ouais.
Donc non, je vais plutôt essayer de dire, je vais aller mettre ce rucher au bord de la forêt, de Rennes, entre autres, par exemple, parce que je sais que là, eh ben, y aura pas de... y a rien.
D'accord. Et...
En fait, notre crainte, c'est les sangliers qui renversent nos ruches, là, surtout.
Quant au frelon asiatique, le frelon asiatique, c'est une plaie. C'est une plaie, le frelon asiatique. On peut ne pas être touché une année, et l'année d'après, c'est une catastrophe. L'année dernière, j'ai fait des essais de piégeage. Je prenais, en une heure et demie, dans une bouteille avec un produit, je prenais 150 frelons asiatiques en une heure et demie, quoi.
Ah oui, quand même.
Ah oui, avec une seule bouteille. Hein, donc, parce qu'un frelon asiatique, il vient dans la rue, devant la ruche, il va faire du stationnaire, et il fait, puis la première abeille qui passe, paf, il la coupe en deux, et puis...
Peut-être okay. Pour conclure sur la question de Grégory, on a bien sûr abordé toutes ces questions de mortalité avec le vétérinaire apicole, parce que quand il y a une surmortalité dans un rucher, ils viennent et ils regardent, hein, parce que nous, on n'est pas forcément les plus aguerris sur le sujet. Et lui, son point de vue, c'est de dire, aujourd'hui, tout le monde a envie, avec beaucoup de bonne volonté, de faire du bien à la planète, à la biodiversité, et voudrait avoir une ruche chez soi. Mais en fait il y a parfois un manque de formation et une partie des mortalités c'est aussi dû à la méconnaissance de l'apiculteur, voilà.
Bah, bien sûr, c'est vrai que là, de tout ce que vous nous dites depuis le début, on voit bien hein, que c'est ultra technique et que c'est un métier qui doit vous prendre beaucoup de temps et beaucoup de connaissances. C'est presque du tous les jours en fait, de l'année. Il y a des moments dans l'année où vous êtes peut-être un peu plus tranquille, où vous avez moins besoin de vous en occuper, où c'est vraiment du quotidien.
En hiver,
en ce moment.
En ce moment, ça va.
En ce moment, ça va, ouais. mais ça, c'est par rapport au rucher, sachant que l'hiver, on a le matériel qui est à nettoyer, le matériel qui est à préparer. Là, par exemple, pour le mois de mars, il nous faut, on les a déjà préparés, on les a déjà travaillés, à peu près 500 cadres de cire qu'il faut qu'on fabrique pour mettre dans les ruches. Parce que les ruches, justement, il y a 10 cadres dans une ruche, dans les nôtres, hein, c'est des dadans, il y a 10 cadres. Pour passer l'hiver, on met ce qu'on appelle une partition, c'est-à-dire qu'on resserre la colonie sur 5 ou 6 cadres ou 7 cadres et on met une cloison pour raccourcir le volume. Par contre, au printemps, quand ça va se redévelopper, là, dès le mois de mars, en fait, il va falloir réagrandir la maison en lui remettant des cadres. Donc, on met des cadres neufs avec de la cire neuve qu'il faut fabriquer.
Ok.
Donc ça, c'est un travail
que vous faites pendant l'hiver.
On fait pendant l'hiver.
Ok, ça marche. Très intéressant. J'en apprends beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment hyper passionnant. Mais je crois qu'on va être obligé d'avancer sur de laisser un petit peu le côté technique de côté et parce que je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à dire. Mais je sens que là, il faut arriver sur le côté nutritionnel bénéfique pour les sportifs et notamment pour le trail. Et Mathias se demande, d'un point de vue nutritionnel sur un trail, le miel aura-t-il un effet coup de fouet ou il fournira de l'énergie sur la longueur?
Les deux, mon général.
J'allais dire les deux, mon capitaine.
Alors pourquoi? J'ai envie de dire les deux. Mathias, bonjour. On a des coureurs de 10 km qui courent plutôt vite, tu vois, 29 minutes au 10, ça commence à galoper... Sérieusement, je pense à Anthony. Salut Anthony, si tu nous regardes, ou à Hamza d'ailleurs. Et puis, on a des coureurs de marathon qui aussi prennent les gels. La glycémie du miel, on va dire que c'est à peu près la même courbe que celle de la banane. Donc, ce n'est pas une glycémie qui monte en pic et qui redescend très bas. C'est un apport d'énergie constant. Après, c'est selon l'intensité de l'effort, tu cadences la fréquence de prise, en fait, du miel.
D'accord. Et, vas-y, Pascal, je suis prêt.
Ouais. Alors, il y a un truc hyper simple à faire. Déjà, il ne faut pas prendre un miel... Enfin, il ne faut pas prendre une dose en général d'apport énergétique quand on n'est pas chaud. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'être échauffé avant de perturber sa glycémie. Donc, un coureur de 10 km qui court en 29 n'aura besoin qu'un seul gel. Et lui, il va le prendre au départ parce qu'il aura déjà fait une demi-heure d'échauffement. Donc, il se sera échauffé. Il va le prendre, Anthony, toujours coucou, 5-10 minutes avant le départ. Et il prend le départ derrière. Un coureur de semi qui aura pu faire un échauffement également avant peut faire la même chose. Celui qui ne fait pas d'échauffement attendra une bonne demi-heure d'être bien chaud pour commencer à perturber sa glycémie. Quand je dis perturber sa glycémie, c'est en fait avoir un apport énergétique. Sachant que quand on en prend, globalement sur un marathon, on va dire toutes les 45 minutes, c'est très bien, on le sent quand on en a besoin. Et sur des ultras, en moyenne, c'est toutes les heures. Je dirais, c'est nos limites. Sur le dernier raid du golf que j'ai fait, sur 30 heures de course, j'en ai pris 27 d'affilée.
Oui.
Enfin, 27.
Les gens, ils font ah oui, voilà. En général, comme ça. Ouais.
Sur la dernière diagonale, j'en avais emmené 60.
Ok, donc, toujours plus.
Sachant que.
Non, mais imagine-toi prendre 60 gels.
Non, bah c'est impossible.
60 gels chimiques ou 20, ne serait-ce que 20 gels chimiques aujourd'hui, c'est impensable.
C'est impensable. Mais en fait, un stick, c'est quoi? C'est une cuillère à peu près?
C'est 20 grammes.
20 grammes. 20 grammes.
Hein, alors, les.
Ouais, on voit bien. Ouais.
Les enzymes de prédigestion. Alors, il y a plusieurs effets techniques sur l'absorption du miel par le sportif. D'abord, il faut savoir que le miel est un des rares produits naturels qui a un effet LIOC.
LIOC, si tu peux préciser?
Voilà, j'attendais la question. Parce qu'en général, les gens ne connaissent pas. Alors, ils vont souvent plus facilement connaître l'effet LIOC quand on est malade avant une course et qu'on va chez le médecin qui nous donne un cachet de cortisone. Et le cachet de cortisone, on te dit, mets-le sous la langue parce qu'avec la salive, ça passe directement dans le sang. C'est ça l'effet LIOC. C'est que, en fait, l'effet du médicament ou l'effet de la substance passe directement dans le sang par la salive. Et le miel est un des rares produits naturels à avoir cet effet LIOC. C'est-à-dire que quand on l'a déjà en bouche, on a déjà une énergie qui va passer dans le sang sans passer par le système digestif.
D'accord.
Après, le miel, il est composé de glucose et de fructose. Alors, en moyenne, on va dire qu'il y a 60% de fructose et il y a 60% de glucose et 40% de fructose. Le fructose est un sucre d'assimilation lente. Donc, on a en bouche cet effet LIOC. Ensuite, on a la digestion dans l'estomac du sucre, du glucose qui vient en deuxième niveau. Et en troisième niveau, on a le fructose qui va faire son effet. Donc on comprend tout de suite que ce n'est pas quelque chose qui va grimper comme une pierre de sucre. Quand on prend une pierre de sucre, on n'a que du glucose et point. Et puis derrière, quand l'effet il est parti, on redescend plus bas. Et plus on va en prendre, plus on va descendre bas dans sa glycémie. Alors que le miel, en fait, la pente moyenne ou la progression moyenne du fructose fait que, en fait, la courbe, forcément, ça va redescendre à un moment donné. Mais quand on en reprend, ça remonte toujours plus haut et ça ne redescend pas plus bas.
Et oui, pour répondre à Mathias, on le sent en fait. L'effet quand on le prend, je ne dirais pas que c'est immédiat, mais dans les 3 minutes, oui, on le sent.
Il y a un truc très simple en entraînement. Une fois qu'on est bien chaud, au bout d'une 3 quarts d'heure, 1 heure, on en prend un, mais on ne regarde pas sa montre. On court simplement comme ça à la sensation, sans vraiment essayer de pas regarder, surtout pas ses kilos, rien du tout. Et en fait, on prend un stick et après, on fait l'analyse une fois qu'on est arrivé de ses kilos. Et là, on voit la différence. En fait, on ne s'est pas aperçu, mais on a fait 10 secondes plus facile au kilo et en plus, facile. C'est des trucs qu'il faut vivre pour le comprendre, en fait, pour le voir.
Ok, donc ça, c'est vraiment l'utilisation qu'il faut en faire. Donc, vraiment analyser quand est-ce qu'on va avoir une baisse de sensation d'énergie et de reprendre un stick pour repartir comme ça.
Ouais, oui, mais c'est standardisé en fait. On sait que sur un marathon, c'est tout. Moi, c'est toutes les 42 minutes. Je le sens.
Mais ça dépend combien de temps tu cours ton marathon en fait.
Un petit peu. Entre 3h et 3h15.
Ok. Bon, ça donne une idée, c'est vrai, c'est intéressant.
Voilà,
c'est ça. Ok, ça marche. Alors ça, c'est pendant l'effort, mais on a aussi des questions concernant l'après l'effort, avec Jocelyn qui nous demande « J'ai un peu de mal avec le goût sucré des sticks, par contre les gâteaux passent très très bien avant une course, et quid pour de la récupération, la bière au miel ?»
La fameuse. Jocelyn, on avait pensé à toi, tu vois, elle est là.
Il y a Romain aussi qui est intéressé par la bière au miel.
Jocelyn, Jocelyn parle du gâteau sportif, j'imagine.
Ouais.
C'est une forme de pain d'épices que madame fait. T'en as fait combien aujourd'hui?
On en a fait pas mal, ouais. En fait, on reste très fidèle à la philosophie sur les sticks en disant plus les aliments sont simples et plus ils contiennent de miel, mieux on peut les assimiler et les digérer. Donc, je vais chercher de la farine dans un moulin, la farine de seigle qui est connue pour ses propriétés très digestes. Et puis, je fais un pain d'épices avec le miel de nos ruchers et il y a des épices, de la levure, et c'est à peu près tout en fait, donc c'est vraiment très très simple. Après, la question c'est sur la récupération, si je ne me trompe pas, pour revenir à la question.
Oui, la bière au miel.
Sur la bière au miel, moi je dis un peu comme Zatopek que c'est pas mal pour la récupération. Alors en vrai, les nutritionnistes, ils disent un verre d'eau, un verre de bière, pour vraiment reconstituer le capital hydrique. Et ce que l'on fait, nous, sur les courses, quand on est partenaire et quand il y en a, et qu'on est présent, on propose une boisson de réhydratation avec de l'eau, du miel et du citron, du sel quand il fait très chaud. Voilà. Oui, le chat s'invite avec
nous. On a un invité.
Alors... Le corps, après une compétition ou même après un entraînement, le corps est quand même en mode course pendant à peu près une demi-heure après l'arrivée de sa course. J'ai peur qu'il nous fasse tomber la caméra. le corps est encore pendant une demi-heure après en mode course. Et donc, c'est pendant cette demi-heure que c'est important qu'il faut...
Tout est bien, bougez plus rien.
Non, ben si, en fait, c'est la batterie.
Ah, mince.
Pendant cette demi-heure, il est important de ne pas faire de bêtises sur ce qu'on va assimiler. La boisson idéale aujourd'hui de récupération après un effort sportif, c'est de l'eau, du miel et du citron. Alors, c'est très connu des coureurs cyclistes. La posologie, on va dire, c'est un demi-litre d'eau, 20 grammes de miel, une grosse cuillère de citron. Et en fait, il semblerait que ce soit quelque chose qui se rapproche de la composition du plasma sanguin, qui est donc extrêmement réhydratant, très facilement. Donc, okay. Souvent, on propose aux arrivées de course, d'ailleurs, quand on a la chance d'y être, c'est ce qu'on propose à la place du coca, entre autres. Et après cette demi-heure, on peut se permettre de boire pratiquement tout ce qu'on veut et de manger presque tout ce qu'on veut aussi.
D'accord.
Donc la bière
de récupération au miel vient en deuxième temps quand même.
Ok, ça marche. Alors, vous m'avez offert une transition formidable concernant justement les courses et les organisations parce que vous avez aussi cette casquette d'organisateur. Et donc, il y a deux questions qui sont sous-jacentes à ça. Comment est-ce que vous avez vécu en tant qu'entrepreneur la crise de 2020 et potentiellement celle qu'on va vivre en 2021? Comment est-ce que vous vous y adaptez? Et si vous pouvez nous parler aussi de la course que vous organisez.
Alors, je vais prendre la première partie de la question sur la crise et je vais te laisser répondre sur la course. Alors, effectivement, on fait partie de ces petites structures qui sont dans l'écosystème sportif. Quand on pense aux annulations de courses, et ben on pense aux gens qui organisent les courses, mais il y a les chronométreurs, il y a les gens qui fabriquent les dossards, il y a les gens qui vendent de la nutrition, dont on fait partie aussi. Alors le Covid, il est tombé, la crise du Covid, elle est tombée pour nous au moment où il y avait beaucoup de travail au rucher, donc on n'y a pas beaucoup pensé. Et puis on a un grand défaut, c'est qu'on a toujours plein d'idées. Et on a organisé des courses virtuelles qui ont très très bien fonctionné. C'était au tout début des courses virtuelles du confinement, donc ça a bien fonctionné et nous ça nous a fait ça nous a donné beaucoup d'énergie aussi de voir que les gens nous suivaient et nous soutenaient, donc ça a été vraiment très très chouette. Après oui, on a hâte que les courses reprennent, déjà parce qu'on aime bien discuter avec les gens sur les courses, et puis parce qu'on est content aussi quand on peut vendre quelques produits en direct.
Bon, ça nous a quand même affecté parce que effectivement quand on va en déplacement sur les courses avec notre stand, on n'est plus quoi. Alors on a l'autre avantage, c'est que en fait le miel on peut le vendre autrement qu'en stick aussi. Du coup, notre excédent de miel, on l'a mis en pot. Et puis, on a fait ce que font tous les apiculteurs. On est allé faire des marchés pour vendre le miel en pot. On a fait cet été des marchés dans des campings. On a fait le marché du village, etc. Ce qui nous permet malgré tout d'avoir toujours une source de revenus qui n'est pas celle escomptée par le biais des sticks, mais on n'est pas sans rien, heureusement, et contrairement à, je dirais à la limite, nos collègues qui vendent des sticks chimiques aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller sur le marché les vendre. Ils sont dans la difficulté sûrement plus que nous.
Ouais, ce serait bizarre, ouais, bien sûr. Ok, super. C'est vrai que vous avez pu du coup rebondir grâce à votre créativité, donc c'est chouette. Ok. Oui. Et donc, du coup, pour l'organisation de votre course, qu'est-ce qui se passe?
On était très tristes, en fait, parce que fin août, on voyait que toutes les courses s'annulaient et on ne les voyait pas revenir. Et on s'est dit, avec Nextrun, avec Vincent et avec ChronoWest, Adrien, qui eux aussi sont très impactés parce que plateforme d'inscription aux courses et chronomètreur, quand il n'y a pas de course, il ne se passe rien pour eux non plus. On a joué les synergies et au départ de la miellerie, on a organisé le premier Happy Run Tour fin octobre et c'était tellement chouette qu'on a eu envie de recommencer. Voilà.
Mais on s'est inscrit dans le cadre de la réglementation de l'époque, c'est-à-dire qu'une course où on disait on fait partir 500 participants, ce n'était pas possible. Donc on a pris le parti de faire partir 500 participants tous les quarts d'heure, enfin, c'est-à-dire qu'on faisait partir 6 personnes tous les quarts d'heure dans la forêt sur deux circuits, 18 et 34 km, et on a eu 500 personnes sur le week-end. Et c'est vrai qu'on a tout ça en lançant sans être dans aucun calendrier de course de quoi que ce soit, en fait. Hein. Et on a uniquement par les réseaux sociaux et les connaissances. Donc, ça nous a donné envie de recommencer pour cette année.
Ok, donc les inscriptions sont ouvertes ?
Ah oui, il y a déjà une centaine d'inscriptions pour le 25 avril. Et cette fois, on est parti sur un format, bon, il fallait bien déposer un dossier, donc on est parti sur un format où on fait 4 courses sur une seule journée, si tout se passe bien, où on a 12 km, 22 km, 32 km et 42 km en forêt de Rennes.
D'accord, très bien. Eh bien écoutez, je mettrai le lien d'inscription dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la région rennaise ou que vous avez envie de venir voyager autour de Rennes et venir courir, bah, vous inscrire à ce petit Happy Run Tour.
On part de la Miellerie et en même temps, on en profite pour faire un petit peu de sensibilisation au monde des abeilles.
D'accord, donc il y a possibilité de voir un petit peu tout votre travail au passage, quoi.
Bien sûr, tout à fait.
Super, c'est une super idée. Ok. Alors, quel est vos axes de développement là maintenant ? Parce que je vois que vous faites des sticks, vous faites aussi des pots, vous faites la bière, le pain d'épices. J'ai vu dans les commentaires que vous faisiez aussi de la pâte de fruits. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous parler de toutes ces stratégies, tout ce que vous comptez mettre en place ?
On n'est pas des très grands stratèges. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas une vision avec un business plan, etc. On avance avec bon sens et avec ce qu'on appelle nous le protocole de nutrition pour se préparer à la course. Donc le premier truc, c'est de se dire, quand je dois courir, oui, je m'occupe bien sûr de mon plan d'entraînement, de mes chaussures, de mon short, je ne veux pas qu'il y ait de frottement, mais il faut aussi que je teste ma nutrition. Donc le stick, ça fait partie des choses qu'on peut tester assez facilement en course. Quand on suit un plan d'entraînement sur, on va dire typiquement 8 semaines, hein, au bout de 6 semaines, on est au pic de l'entraînement, ça commence à décroître un peu, on a accumulé pas mal de charges, hein, on est fatigué et il ne faudrait pas tomber malade. Et on s'appuie pour cela sur un actif de la ruche qui s'appelle la propolis. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on propose des sprays à la propolis. Si vous voulez.
Ouais, je vois, ouais.
Voilà. À prendre en cure pendant effectivement une dizaine de jours. L'autre sujet avant de prendre le départ d'une grande course, c'est que très souvent, il faut se lever tôt le matin et on n'a pas forcément envie de se lever 3 heures avant le départ de la course. Donc, le gâteau sportif dont on parlait tout à l'heure avec la farine de sel et du miel, il a cette propriété d'être très digeste et assimilable en 1h30. Avant le départ d'une course. Alors, il se présente de manière assez atypique dans un bocal, parce qu'on essaye toujours, quand c'est possible, d'éviter en fait les emballages jetables, voilà. Ce qui fait que c'est déjà cuit et pratique aussi quand on est à l'hôtel et que on n'a pas de quoi faire cuire avec un micro-ondes ou qu'on a deux mains gauches comme nous. Ça nous est arrivé sur le marathon d'Amsterdam, on n'avait pas de petit déj par exemple parce qu'on avait fait cramer notre truc. Voilà, donc ça peut être assez pratique, hein. Et pendant la course, les sticks de miel. Après, on sait que sur des courses longues, ce qui est important, c'est la notion de plaisir. Donc on a voulu aussi diversifier les choses. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait envie, comme Pascal, de prendre 27 ou 60 de miel, voilà, à la suite. Donc, on s'est rapproché d'une pâtissière confiseuse et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu peux me faire comme pâte de fruits ? Moi, les pâtes de fruits, j'aime bien, sauf que l'aspect pure glucose, en termes de glycémie, c'est très perturbant et ça crée ces fameux pics. Hein. Et donc, elle nous a conçu des pâtes de fruits à la pomme, hein, parce qu'on tient à travailler avec des produits locaux. Donc voilà, ça se présente comme ça. Christine, si tu nous regardes, merci pour les bonnes pâtes de fruits que tu nous fais. Et on s'appuie aussi sur des artisans locaux, en fait, pour nous aider. Ouais, c'est des pâtes de fruits au miel, parce qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Donc, on s'appuie sur des artisans locaux pour nous aider à agrandir la gamme de produits. C'est ce que l'on a fait aussi avec la bière au miel. C'est jusqu'ici le fils de Pascal, qui est artisan brasseur en fait, et qui faisait pousser son, enfin, qui fait pousser son houblon et son orge, qui brasse pour nous avec notre miel. Voilà.
Ok, super. Donc, mais c'est génial.
Vas-y. Il y a beaucoup de gens qui sont très fans hein, des bars à cru. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, hein, mais qui permet de garder vraiment l'intégrité des bienfaits, des vitamines, des aliments. Donc, c'est quelqu'un qui est diététicienne hein, et qui nous a fait quelques prototypes. Donc, ça va arriver bientôt en test avec des choses assez atypiques.
Hein, des salés.
Dont des salés aussi, parce que c'est des choses qu'on nous demande. Voilà.
D'accord. Mais comment vous allez faire des salés salés à base de miel, mais avec d'autres choses dedans, j'imagine.
C'est ça.
Oui. Oh, okay, ouais. Un petit peu une ouais, forme de scoop, puisqu'il ouais. y en aura une à l'ortie.
Intéressant.
Oui, très intéressant.
Il y a des soupes d'ortie qui se font, je sais que c'est très très bon.
Ah, mais sur le plan diététique,
oui, voilà.
Sur le plan apport, l'ortie est quelque chose d'extraordinaire. Donc,
c'est pour les mollets, mais bon, ça c'est autre chose.
Pardon ?
Sauf pour les mollets.
Oui.
Sauf pour les mollets.
Oui.
Ah oui. Oui, non, mais donc, alors en digestion.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà un petit peu comment on avance. Et puis dans les petites nouveautés, on t'en parlait avant de démarrer. Bertrand Soulier nous a un peu challengé et nous a proposé ses compétences de podcasteur. Et donc, on travaille là sur un podcast sport et nutrition. Et d'ailleurs, vous qui nous regardez et qui nous entendez, on cherche un nom pour ce podcast sport et nutrition. Donc, si vous avez des idées, allez-y, donnez-les et puis ça va certainement nous inspirer.
Ok. Ben c'est cool. Donc ça, c'est donc on en parlait effectivement juste avant de ce lancement du podcast de Bertrand Soulier, qui a le podcast, c'est d'ailleurs que je vous invite à aller écouter, qui s'appelle Kilomètre 42, si vous êtes intéressé par les podcasts. Et donc ça commencera donc le mois prochain apparemment. Donc si tout se passe bien, le lancement du podcast le mois prochain.
Avec un invité drôlement chouette.
Ok, donc ce sera un format comment
de... Les invités, ouais.
Ce sera un format quoi, une heure avec un invité ou ce sera qu'avec vous ?
Pas avec nous.
Ah non, ce sera avec un invité, ouais.
Ok, donc c'est pas uniquement vous qui allez parler, il y aura toujours un invité avec vous.
Ah ben non, parce que les gens, ils vont en avoir marre de nous entendre parler de miel, c'est pas ça qui les intéresse.
Ah ben ça dépend, hein, quand on entend des choses qui sont intéressantes, moi j'écouterai des gens parler pendant des heures.
L'idée, c'est de croiser les expériences hein, avec, Bertrand, il appelle ça les gens qui sont inspirants, qui peuvent faire part de leur expérience, et avec des experts également, ouais.
Ok, super. C'est vraiment une bonne idée parce qu'en plus le podcast est en pleine explosion, donc c'est vraiment un très beau projet que vous avez là.
Merci.
J'ai une petite question quand même qui me taraude depuis le début. Et quand vous êtes un couple d'entrepreneurs, un couple de coureurs, est-ce que vous arrivez à discuter d'autre chose que de course à pied et de miel au quotidien ? Ça va être compliqué quand même, non ?
Alors en fait, on est passionnés. Ça, c'est le premier truc qu'il faut dire. C'est plutôt mes enfants qui disent parfois, non, mais on ne peut pas parler d'autre chose, là.
Je vois que c'est votre fille qui est dans les commentaires, d'ailleurs. Hein, donc...
Ah bon ?
Ouais.
Coucou Adèle. Ok. Oui, non, ils en ont un peu marre parfois. Entre nous, alors on aime beaucoup en parler, on a plein d'idées, on n'a pas toujours les mêmes. C'est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, on est couteaux suisses, mais on n'est pas les mêmes couteaux suisses, on est des couteaux suisses
complémentaires.
Mais on est assez fusionnels globalement en fait. Voilà.
J'allais dire, le problème c'est qu'on grouille d'idées en fait. On a toujours des idées qui nous emmènent plus loin. Donc, pour l'instant, non, ça se passe bien. Hein.
Mais alors, d'avoir beaucoup d'idées, c'est pas un problème en soi, parce que j'aime bien prendre l'image de l'entonnoir. Quand il y a plein d'idées, et que ça déborde, eh ben, c'est un problème. Mais par contre, s'il y a des choses qui sortent, ben, c'est pas un problème. Oui. Et là, vous, vous avez plein de produits qui sortent, vous avez plein d'idées concrètes qui se mettent en place, etc. Donc finalement, avoir plein d'idées chez vous, ça n'a pas l'air d'être un problème.
Non.
Non.
Non, non.
Non. Donc c'est génial.
Et on a parlé d'autre chose. Oui, ça nous arrive de parler de ski, ça nous arrive de parler.
C'est parce qu'on est parti en vacances.
De la Réunion.
De vacances quand même, ouais, ouais. Même si les vacances sont souvent sportives d'ailleurs. Mm. Puisque nos trois dernières semaines de vacances, c'était des semaines sportives.
Ok. Voilà.
En fait, on aime. Alors, ça.
Pour finir sur une petite touche de trail avec toutes ces expériences que vous avez, quel est le meilleur souvenir de trail que vous pourriez recommander à tout à chacun qui écoute ça maintenant?
Ok, je vais commencer. Alors pour moi, sans hésiter, c'est le trail du Sancy, le trail hivernal du Sancy. C'était mon premier trail blanc. On a couru dans la neige, c'était 30 km, je crois. Et c'était un truc formidable. Il faisait très froid arriver au sommet des crêtes, parce que même si c'est très rond, les sommets en Auvergne, finalement, c'est très venté parce qu'il n'y a rien pour abriter. Et il y avait quatre gars qui étaient là, déguisés avec des chapeaux hyper colorés et tout, et avec un porte-voix. Et en fait, j'ai pris le porte-voix et voilà, on a bien rigolé.
Souvenir, super, génial.
Moi, je suis plutôt du genre à faire des photos pendant les trails, à m'amuser, à discuter avec les gens. Pascal, il est plus performeur quand même.
Ok, il faut aller chercher le chrono.
Ouais.
Oui, toujours.
Ah, mais c'est comme ça, il y a le droit.
On se raccroche comme on peut. Hein. Alors, je ne sais pas si je parlerai comme ça, mais je parlerai plutôt de souvenirs de meilleurs trails, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais qui reste un souvenir pour moi gravé. Mais c'était au Chili, dans le désert d'Atacama. C'était donc une course de 300 km, à peu près à 4000 mètres d'altitude. Dans okay. des paysages absolument somptueux, mais qui nécessitaient des efforts physiques drastiques. Et c'est des choses où de voir les lacs salés à 4000 mètres d'altitude tout blanc, on croit que c'est de la neige, en fait c'est du sel. De voir ces volcans qui fument avec la collerette de neige tout en haut et qui culminent à 7000-8000 mètres d'altitude, c'est des choses... Oui, les gens qui peuvent faire du trail par étapes dans des pays étrangers comme ça. Voilà. Maintenant, juste pour finir, celui dont on rêverait quand même faire, c'est le trail, un trail à Madagascar.
Un trail par étapes.
Hein. Par étapes de Madagascar. Parce que malgré tout, on peut dire que l'ultra trail, hein, entre 100, on va dire à partir de 140 jusqu'à 200 km, malgré tout, c'est quand même très usant pour l'organisme et on n'en profite pas forcément des paysages comme on devrait en profiter. Alors qu'une course par étapes, comme le marathon des sables par exemple, où on a 5 ou 6 heures, 7 heures d'effort par jour, ce qui représente quand même quelque chose, hein, surtout dans la durée, en fait, ça nous laisse le temps de voir, de parler avec des gens du coin, c'est une autre dimension du trail qui, à mon avis, mériterait d'être plus reconnue parce que sûrement bien plus fêteur pour tout le monde, quoi.
Bah, c'est vrai que je recevais Cécile Bertin il y a quelques semaines et c'est vraiment ce qu'elle nous partageait, que ces trails à étapes, c'est vraiment cet esprit, cette ambiance, cette atmosphère qui se crée de partage, de retrouver les gens le soir, tout ça qui est vraiment unique et qui se retrouve pas dans l'ultra trail. Donc c'est vraiment cette spécificité-là.
Et les autochtones aussi, en fait. Hein. Moi, j'ai traversé le désert du Sinaï en Égypte, où c'était 4 marathons, où on était hébergé sous des tentes. Mais c'était les locaux, les gens du cru qui nous faisaient la nourriture, qui nous faisaient manger, etc. C'était des trucs extraordinaires.
Okay.
Des souvenirs J'ai fait la muraille de Chine, j'ai fait le, je sais plus comment ça s'appelle, en Chine.
Attention, ça peut durer longtemps.
C'est pareil, on arrivait dans des villages, ils n'avaient jamais vu un touriste. C'était les foulées de la soie, voilà.
Les foulées de la soie, et ça, donc c'est sur la muraille de Chine.
Alors, en fait, on courait, c'était 14 épreuves, entre le semi-marathon et à peu près 30 km, 14 épreuves. Chaque jour, on courait dans une province différente. Donc, on courait le matin et l'après-midi, on allait visiter et le soir, on était en transfert. Transfert avion, transfert par car, transfert par train. Et on faisait des provinces différentes à chaque fois. Et la dernière étape était sur la muraille de Chine.
Génial. Et donc ça, c'était pendant deux semaines, tous les jours, comme ça.
Ouais, tout à fait.
Ça existe toujours, ça?
Je ne crois pas. Je ne crois pas.
C'était Ned qui faisait ça.
C'était Ned qui faisait ça. Nature Extrême Développement.
D'accord.
Il y a quelques organismes français comme ça qui existent toujours. Hein. Ned fait ça, fait la même chose. Alors plus en Chine, mais dans des pays tropicaux d'Asie, etc. aussi.
Ouais. Ok, super. Bon, eh ben, on a terminé notre petite heure. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Voilà. Ça, c'est un beau message de conclusion. Arrête de rêver, François. J'étais en plein rêve. J'avais des paillettes dans les yeux. Je vous écouterai parler pendant des heures. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour retrouver tout le travail que vous faites, Leïla et Pascal?
Alors, on peut nous retrouver sur Internet, hein, où vous retrouverez un petit peu ce qu'on a pu raconter, des explications sur la nutrition, nos produits, les points de vente dans lesquels on est présent également, et puis sur les réseaux sociaux aussi. Voilà.
Et à la Miellerie.
Aussi.
Puisque tout le monde est la bienvenue, hein, il n'y a pas de souci. On est à la Sorinet, à Liffré, aux portes de la Bretagne, porte Est de la Bretagne, hein. Et on accueille tout le monde avec grand plaisir.
Ok, bah écoutez, à l'occasion, ce sera aussi avec grand plaisir que je viendrai vous découvrir votre travail là-bas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021?
La même chose que 2020.
Sans le Covid.
on a malgré tout fait une excellente année 2020. Donc si on fait la même chose en 2021, ça sera déjà très bien. On n'est pas gourmand au sens on gère pas une multinationale, quoi.
Non, on prépare juste un 12h et un 24h et moi juste j'aimerais bien aller au bout, voilà, c'est tout.
Ok, super, et ben, c'est tout ce que je peux vous souhaiter également. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents dans les commentaires. J'ai pas pu mettre toutes les questions, j'en suis désolé parce qu'on a vraiment échangé sur des sujets très intéressants. De toute façon, Leïla et Pascal restent disponibles, vous voyez, ils sont très accessibles. Donc, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message et vous répondrons avec grand plaisir. Merci beaucoup Leïla et Pascal d'avoir été avec moi et tous les auditeurs et spectateurs durant cette heure. C'était vraiment très enrichissant, très intéressant. Je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité encore très très intéressant. Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci, bonsoir.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine. Bye bye.